passion moderniste.
Vive le roi !
Le podcast qui éclaire.
Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé.
L'histoire moderne.
La terre est proche.
La thèse est osée.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a beaucoup de bruit autour de moi. Et oui, nous sommes dans Passion Moderniste, le podcast qui vous éclaire et qui vous apprend plein de choses sur l'histoire moderne. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la deuxième édition d'un épisode que j'ai déjà fait l'année dernière, vous allez comprendre. Nous sommes aujourd'hui à Blois. Nous sommes en octobre 2024. Cet épisode sortira dans quelques mois, je pense, pour la Game Jam. Et rappelez-vous, dans l'épisode précédent, je vous avais déjà dit c'est quoi une Game Jam. En gros, c'est pendant un week-end, des gens se réunissent pour faire un jeu vidéo en 48 heures. Et là, à la Game Jam à Blois, en fait, on est dans le cadre du festival des rendez-vous de l'histoire. Donc c'est un peu le rendez-vous annuel de tous les gens qui aiment bien l'histoire, les chercheurs, les chercheuses, les profs, avec un salon du livre gigantesque, et donc aussi une Game Jam. Et donc des jeux vidéo ont été faits à partir de sujets de chercheurs et chercheuses en histoire, donc en tout type d'histoire. Et donc, ben forcément, on a le sujet en histoire moderne. Et avec moi aujourd'hui, pendant cet épisode, vous allez attendre aussi deux personnes parce que c'est un crossover, mesdames et messieurs. Et là, j'ai deux messieurs autour de la table. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, messieurs ?
Salut, c'est Backlog.
Lui, c'est Back, moi, c'est Log. Bonjour.
Non, c'est Backlog, le podcast qui a loupé le train de la hype et on fait beaucoup de game jam régulièrement. Moi, je m'appelle Winston.
Moi, c'est Fonz.
Et on parle beaucoup de jeux vidéo.
Ouais, souvent, beaucoup.
Beaucoup.
Voilà, ouais. Donc l'épisode d'aujourd'hui que vous allez entendre, il y aura trois interviews de trois jeux, mais il y aura aussi dans un épisode de l'autre podcast Backlog, bah, là, toutes les interviews des huit jeux peut-être. Je ne sais pas si on va arriver à voir les huit.
Je ne sais pas, on verra.
On verra bien, suspense.
C'est suspense. Suspense jusqu'à la fin.
On va essayer.
Donc bah, voilà, messieurs, bah, je vous propose qu'on enchaîne avec le premier jeu. Allons-y.
Allez, c'est parti.
Maintenant, on va s'intéresser au jeu Aux Armes Citoyens. Autour de la table, nous avons avec nous un duo, parce qu'à chaque fois, même s'ils sont très plein de gens dans ces équipes, là, nous avons un duo. Est-ce que vous pouvez vous présenter, messieurs, parce qu'on a deux messieurs autour de la table.
Bonjour, je m'appelle Stans Binden et j'ai été graphiste dans ce projet de Game Jam. J'ai fait la direction artistique du jeu et les chara-design, donc les personnages.
Oh, ils sont trop bien, on va en parler.
Ma camarade a fait des modèles 3D sur lesquels elle a fait des aplats pour les décors. Et c'est basiquement la répartition des tâches. J'ai fait personnages et UI, donc tout ce qui est petites icônes et logos dans le jeu. Et elle a fait les décors.
Ok, et à côté de toi, nous avons...
Bonjour, je suis Valentin Barrier, je suis doctorant en histoire de la Révolution française. Je travaille donc sur... les guerres de la première coalition. Mon sujet de thèse a été ici mis en scène brillamment par toute l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. Et je suis l'historien à l'origine ou à la racine de ce jeu, Aux Armes Citoyens.
Stan, explique-nous un petit peu le jeu, comment ça se passe ?
Nous sommes un général du Roku pendant la période de la Révolution. Avec beaucoup d'attentes sur nous, soit de notre armée, du peuple, des députés, et tout en surveillant les finances. Donc tout ça est mis dans le système de jeu avec un paquet de cartes où à chaque fois un nouveau personnage arrive vers vous, présenté sur la carte avec un dialogue et qui va vous demander de prendre un choix et que vous allez choisir de mettre la carte à gauche ou à droite selon si c'est oui ou non ou un petit dialogue qui est écrit pour préciser exactement ce que vous répondez. Et tous vos choix ont une conséquence qui vont... se marquer par des petits marqueurs en haut de l'écran qui va du coup influencer votre réputation avec la ville ou à quel point le député est content de vous, votre armée ou votre finance. Et si vos petites barres atteignent 0 ou 100, vous perdez.
Et Valentin, est-ce que tu l'as dit un petit peu ? Je veux bien que tu nous expliques ta thèse, en fait, sur quoi elle a porté. Est-ce que du coup tu l'as fini aussi, c'est ça ?
Alors non, j'ai pas terminé, je suis en train de rédiger actuellement.
Fini, ouais.
Non, je suis à ma cinquième année. Alors ma thèse, elle porte sur la manière dont le pouvoir politique républicain prend en main ou non la direction de la guerre au cours des deux premières années de la République, c'est-à-dire 1792-1793, et je m'étends aussi sur 1794. Et mon but est d'essayer de comprendre comment l'appareil politique, comment la convention, comment les députés, pouvoir législatif, s'accaparent ou non contrôle ou non la direction de la guerre. Est-ce qu'on peut parler véritablement d'une direction politique de la guerre à ce moment-là ? Chose particulièrement originale parce que jusqu'ici, c'était le souverain, c'est-à-dire le roi, qui dirigeait la guerre et ses généraux qui exécutaient. Alors que là, le souverain est désormais le peuple et le peuple qui s'exprime à travers ses députés. Et on va voir comment ce nouveau pouvoir contrôle ou non la guerre et impose peut-être ou pas une manière républicaine de la faire. Parce que derrière le bagage révolutionnaire, il y a un idéal républicain qui peut ou pas, c'est à moi d'essayer de déterminer ça dans mon travail, impose un modèle de faire la guerre de manière républicaine. Qu'est-ce que c'est que faire la guerre républicainement ?
Et là, je vois que tu emploies beaucoup le conditionnel. Donc j'imagine que tu ne peux pas encore trop dire si effectivement il y a un impact ou pas, parce que j'imagine qu'avec le roi, c'est assez facile de dire bon, allez, on va aller attaquer ça. Alors que là, en fait, c'est le peuple, donc c'est des parlements, c'est des gens, et ils doivent déjà débattre eux-mêmes avant pour aller se fighter. Mais tu dois quand même avoir un espèce de décalage.
Alors justement, c'est là tout l'intérêt de l'invention du représentant en mission, c'est-à-dire du député qui est sur les zones d'opération et qui représente la puissance souveraine, qui représente le peuple. Comme il est député et qu'il est envoyé sur le champ de bataille, il peut, au nom du fait qu'il représente le peuple souverain, dire à un général, globalement, ça, ce que tu fais, c'est pas républicain, bon, je t'arrête tout de suite, maintenant tu te fais remplacer. Ils peuvent décider de remplacer les généraux s'ils trouvent que leur conduite n'est pas bonne. Et tout l'intérêt, c'est essayer de voir à quel point le pouvoir politique s'immisce dans la direction de la guerre, dans la direction des opérations.
Et là, le jeu se passe principalement vers Perpignan, mais quelle zone est-ce que tu as étudié ?
Alors justement, les Pyrénées-Orientales, c'est un des trois théâtres d'opérations sur lesquels je travaille. Je travaille sur le nord de la France, donc Dunkerque, un espèce de Dunkerque à Maubeuge. Ensuite, je travaille sur l'espace Alsace-Moselle. Qui était couvert par l'armée du Rhin, et je travaille sur l'espace des Pyrénées-Orientales, donc l'armée des Pyrénées-Orientales, parce que c'est l'espace, le théâtre d'opération le plus lointain de Paris en métropole, et donc c'est un espace où les lettres de Paris mettent 15 jours à arriver. Et donc ce qui m'intéressait vis-à-vis de ce théâtre d'opération, c'est qu'en fait je voulais comprendre à quel point il était indépendant de la volonté centrale de Paris, et à quel point les députés, qui ont des pouvoirs illimités, avaient de l'autonomie là-bas aussi. Et surtout, pour la modélisation du jeu, ce théâtre d'opération est très facile à représenter, puisque vous avez les montagnes, qui sont donc les Pyrénées, depuis lesquelles les Espagnols arrivent, une plaine entre la plaine du Roussillon, entre les montagnes et la ville, et la ville dans laquelle il y a le peuple. Donc en fait, vous avez une tripartition très classique, l'ennemi, le peuple, l'armée et un port. Voilà. Donc la zone est géographiquement assez facile à représenter, donc je me suis dit c'est le meilleur endroit où placer le décor, quoi. Alors que l'Alsace, on aurait eu un peu plus de problèmes, et c'est d'autres dynamiques.
C'est plat l'Alsace.
Non, c'est sympa, mais...
C'est plat, je veux dire, tu sais, t'aurais fait la forêt.
Ouais, bah, il y a quand même des petites montagnes, hein, mais il y en a quand même. Hein. C'est assez embêtant en réalité.
Ok.
Donc on va un peu dérouler comment ça s'est préparé pour faire le jeu. Alors racontez-nous un peu au début comment vous êtes venu l'idée, parce que effectivement ta thèse elle couvre plein de choses.
Absolument.
Donc, comment est-ce que vous avez choisi sur quel angle faire le jeu ?
Moi j'avais déjà réfléchi un petit peu à ce qui aurait pu être fait. J'avais plusieurs idées en tête. Il y avait effectivement l'aspect choix qui m'intéressait énormément et que je trouvais très approprié avec ce que j'avais vu dans les sources. Mon objectif, c'était de montrer une friction, c'était de montrer une tension entre l'appareil militaire et l'appareil politique, qui sont deux protagonistes très importants de la période révolutionnaire. Et je m'étais dit, pour représenter cette tension, quoi de mieux qu'un jeu à choix ? Alors après, dans les ambitions de départ, il y avait la nécessité d'imposer un système de gestion plus spatialisé. Et au final, ça s'est transformé en cette carte où le personnage, le joueur bouge d'un endroit à un autre, on lui propose de bouger. Et quand on a compris qu'on voulait faire un jeu à choix, Pierre, donc un des développeurs du jeu, est venu vers nous en nous disant « j'ai un modèle de Reign sur son moteur », je ne sais pas comment on appelle ça.
Reign, c'est un jeu, c'est ça ?
C'est un jeu, effectivement, c'est un jeu... C'est un jeu à choix qu'on trouve d'ailleurs sur Netflix en ce moment.
D'accord.
Si vous avez Netflix, vous pouvez y jouer.
Ça marche comme Tinder pour les gens qui ne savent pas ce que c'est.
Exactement, c'est un peu le même principe, voilà. C'est vrai. On swipe
à gauche ou à droite.
Il ne faut pas se tromper. Hein.
Et je trouvais que c'était un bon compromis entre ce que j'avais imaginé et la réalité. Pierre avait donc déjà un modèle de ce jeu-là et son système de code qui était vraiment très facile à l'usage. Il nous a même tous un petit peu formés à l'utiliser.
On a tous pu un peu toucher... à la programmation en incorporant nos propres choses, donc ça a été intéressant.
Ah, parce que vous aviez du temps pendant la Game Jam, pendant les 48 heures, c'est sûr, vous avez du temps libre.
Ah, pour vous dire, c'est du coup, ça montre à quel point le système était vraiment facile d'accès, il était bien pensé, quoi.
Ah, mais vous avez triché, en fait, c'est ça.
Je sais pas si c'est de la triche.
Du coup, c'est un truc qu'il a codé lui-même, le moteur ?
Oui.
Ok, d'accord. Et c'est sur base du quoi, du coup ?
Bah, il a créé son propre moteur de zéro, donc il nous a donné le lien internet et on était. Okay.
Ah ouais, donc il est pas parti de Godot ou de quoi? Non, il a fait ça à l'arrache. Ouais. Ok, d'accord. Wow.
Ouais,
pas mal, pas mal.
Et du coup, bah, même pour un historien, comprendre, parce que je sais pas de compétences info, enfin de développement très développé, je sais pas coder ou quoi que ce soit, mais du coup, c'était assez facile d'accès, même pour moi, de rentrer mon texte dedans avec ce qu'il fallait mettre autour, comment fermer les trucs. Enfin, c'était vraiment facile d'accès, quoi.
Et du coup, tu dirais que t'as, qu'en fait, vraiment, t'as fait ce que t'as voulu? Est-ce que les autres ont pu participer quand même, tu sais, donner un peu des idées?
Ah mais bien sûr, c'est toi qui as absolument.
Non, c'est Valentin qui a fait le dictateur sur ce jeu.
Exactement.
Tu étais moins Stan. Non.
Il est historien, il peut. il peut.
Et pour un historien de la Révolution française, finir dictateur sur son jeu, c'est un petit peu problématique.
Regarde Napoléon, j'ai envie de dire.
Ouais, voilà.
Mais ouais, non, voilà. On va savoir un peu comment vous avez réparti le truc.
Bah, en fait, il y avait cette nécessité pour l'équipe de venir à ma rencontre, essayer de me demander ce que je voulais faire, ce que je voulais exprimer. Parce que l'objectif aussi de cet exercice-là, c'est d'exprimer les problématiques de la thèse. Et donc, bon, moi, je me suis positionné. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont vos centres d'intérêt là-dedans? Qu'est-ce que vous aimeriez bien réaliser? Et eux aussi sont venus en me disant « Toi, qu'est-ce que tu voudrais faire ?» Et on est tombé d'accord sur ce format-là assez rapidement. Hein. Oui. Dès le vendredi, on était...
Dès le mercredi presque. Parce que du coup, il y avait les meetings les mercredis soirs.
Ah oui, dès le mercredi.
On ne savait pas encore si on allait dans une équipe ou une autre. Mais je sais qu'on parlait déjà de faire un Rainslike le mercredi soir.
Ouais.
Et j'étais notamment du coup très content de voir que j'étais pris dans cette équipe-là parce que c'est un système de jeu que j'aime beaucoup. Ça fait du bien de bosser sur un jeu qu'on aurait envie de jouer, ce qui n'est pas toujours le cas en Game Jam vu qu'on doit faire des principes très simples. Donc c'était très très cool.
Et du coup, justement, Stan, comment ça s'est passé, toi, au début?
Alors, ça, au début, mais ça concerne surtout que moi. Je sais que j'ai beaucoup de problèmes de confiance en moi et que dans les game jams précédentes, c'était beaucoup du « j'écoutais les jeux, et juste je faisais et j'osais rien proposer ».
Il est temps de prendre confiance en toi, Stan. Voilà, ce podcast aujourd'hui est fait aussi. Allez,
Là, du coup, attends, je te coupe. Mais du coup, c'est la deuxième que tu fais, là, c'est ça?
Troisième,
ok.
J'avais fait deux scientifiques game jams avant. Okay. C'est la première game jam des rendez-vous d'histoire. Mais ouais, ce qu'il y a, c'est que cette année, étonnamment, ça s'est super bien passé et sans que j'aie à faire particulièrement d'efforts pour oser parler, je pense que le fait que l'équipe semblait hyper abordable avec tout le monde au même niveau, ça a aidé. Mais du coup, oui, à un moment, j'étais... Il y a un système de salle sur Gathertown, j'étais dans une
Vous
salle...
Vous étiez en virtuel, en fait.
Ouais, on est en virtuel. J'étais dans un endroit où je pouvais parler qu'avec ma coéquipière de game design. Et en fait, on s'est très vite mis d'accord sur ce qu'il y avait. J'ai fait des rêves de style graphique que j'aime bien et tout a été approuvé et c'était formidable.
Ah mais je veux bien qu'on en parle un peu des personnages parce qu'ils sont effectivement, ils sont très...
Ah, ils sont fabuleux.
Ils ont différentes vraiment, tailles, donc ces différents personnages qu'on rencontre pendant le jeu. Comment est-ce que vous avez choisi? Est-ce que peut-être, Valentin, t'avais donné des idées pour ça?
Sur le design ou sur le type de perso?
Les deux, ouais.
Alors, sur les types de persos, bah, y avait forcément le député qui est censé représenter le pouvoir politique dans l'espace militaire. Les députés, c'est un député de la Convention nationale, donc c'est on appelle ça un représentant en mission. C'est quelqu'un qui a des pouvoirs illimités, donc qui a la capacité de faire des arrêtés à tout bout de champ pour faire accélérer les choses, accélérer la logistique, mais aussi surveiller que les militaires, et en particulier les généraux, ne trahissent pas, puisqu'il y a cette suspicion qui pèse au-dessus d'eux, qui est que ce sont des hommes qui ont servi dans l'armée royale avant et on ne sait pas trop où va leur attachement politique et si l'attachement de surface qu'ils montrent pour la République est en fait juste un écran, quoi. Et donc le député, il fallait le trouver et j'ai proposé tout de suite à Stan, je ne sais pas si vous connaissez ces petites vignettes de la période de Révolution française qui sont exposées au musée Carnavalet, qui montrent plein de petits personnages de la Révolution dans
des
différentes
archétypes,
postures.
C'est ça ?
Exactement. Ouais. Je ne sais pas si c'est des archétypes, parfois ça représente des personnages précis. Et donc j'ai envoyé toute une salve à Stan et il en a fait ces petites merveilles là.
Ça m'a surtout aidé pour les vêtements, le style de l'époque, toutes ces choses là. Et puis, basiquement, Valentin et notre game designer, Michael, m'avaient envoyé une liste des personnages qu'ils voulaient, qu'ils avaient décidé qu'ils feraient les cartes avec les dialogues de ces personnages-là. Et à partir de cette petite liste, je savais que j'avais affaire mon député, mon général, etc. Puis sinon, pour le style des personnages, en fait, depuis le début, quand j'ai parlé avec ma collègue, on va dire... du style graphique, on avait décidé d'aller sur quelque chose de très géométrique et pour les personnages ça m'avait fait penser au film Klaus pour ceux qui voient sur Netflix.
Oui, ouais, je crois
c'est
vraiment,
un film, c'est une revisite on va dire de l'histoire du Père Noël en animation magnifique 2D J'avais des refs ouvertes de comment étaient faits ces personnages-là du début à la fin du projet et ça marchait très très bien.
Parce qu'on a différents types de personnages et tout.
Oui,
donc
en fait, il y avait le souci d'exprimer plusieurs représentations de ce qu'il y avait dans le théâtre d'opération qui nous intéressait, qui était celui des Pyrénées-Orientales. Et la ville de Perpignan, alors, devait être, d'avoir une représentante. Et les femmes dans la Révolution française ont eu un rôle très important lors des insurrections et je trouvais que donner une existence à... comment on l'appelle déjà, c'est quoi son nom déjà, la mère,
la mère
Fournier, je crois, la mère Fournier, c'est ça. Je crois que c'était une bonne idée de la représenter comme ça, de ce modèle un petit peu qu'on a des femmes populaires parisiennes, même si à Perpignan c'était pas du tout la même chose en réalité hein, à ce moment-là. Il y a beaucoup d'habitants qui parlaient pas français, qui parlaient juste catalan à ce moment-là. Mais voilà, donc la mère Fournier, c'était un petit peu la représentation populaire. On lui voulait ce petit côté renfrogné que Stan a particulièrement bien fait.
Oui.
Ensuite, le général. Ça, pour le coup, Stan a bien aussi compris le truc, a bien représenté le truc. Les généraux de cette époque-là sont souvent des hommes qui ont en quarantaine, cinquantaine, qui ont un peu une expérience des armes très limitée parce qu'ils ont servi sous l'Ancien Régime. Or, il n'y a pas eu beaucoup de guerres. Parfois, ils sont un peu fatigués ou alors en bout de carrière, la Révolution leur tombe un peu sur le coin du nez. Ils n'avaient pas prévu ça pour la suite de leur vie. Donc voilà, celui-ci a un petit peu cette impression-là. Je trouve qu'il renvoie bien... Et bon, après, le personnage du royaliste, le comte de... Je sais plus comment il s'appelle. Pour le coup, on voulait lui donner un aspect mystérieux, méchant. Enfin, c'était un petit peu l'objectif de l'affaire. Et je pense que c'est assez évident que c'est un royaliste.
Puis il a une grosse croix, là, un petit indice, quoi.
Alors, celui qui a l'air méchant aussi, c'est le financier.
C'est ça.
Donc le trésorier, qui du coup ressemble à Robespierre. Qui ressemble au Robespierre du film d'Abel Gance. Je crois que c'est l'image que j'avais envoyée à Stan.
Pour tout le monde est méchant, l'image de référence.
Voilà.
C'est dingue.
Pour les personnages.
Et du coup, tu noterais ça au niveau de ta thèse, tu noterais ça comment en fidélité ? T'as dit, est-ce que j'ai tout mis dedans et puis j'ai pas inventé de truc ?
Alors,
ou est-ce que j'ai mis des gags quand même ?
Alors justement, c'est un peu, c'est une question tout à fait légitime puisque on a écrit, j'avais écrit une première version du jeu assez, on va dire, avec des cartes assez longues, assez précises. Et le développeur, le game designer, pardon, Michael, est venu me voir et m'a dit, bon, le ton est un petit peu dur, quoi. Et il m'a dit faut qu'on rajoute du fun. Et je comprends tout à fait puisque un jeu à la base c'est censé on est censé s'amuser en le faisant hein, et en plus de ça il faut apprendre des trucs. Et donc Michael a créé quelques cartes rigolotes qui du coup se sont révélées plus importantes dans le code à la fin et ressortent beaucoup, ce qui effectivement donne une impression parfois que le jeu sort un peu de la réalité. Mais beaucoup de cartes à l'origine sont censées se rapporter à des éléments réels.
Qu'ont vraiment passés. Parce que justement,
vous pouvez me poser la question si vous voulez sur certains trucs. Alors, il y a des cartes, l'endive envoyée à la tête du général, ça n'existe pas. Mais par exemple.
T'es sûr vraiment, hein, parce que ça c'était marrant.
C'est pas impossible ceci dit, hein, cette époque-là, c'est pas impossible. Quand on prend par exemple la carte où l'officier propose au général, lui dit qu'une femme a été découverte en habit de soldat et que le député veut la virer. Donc le général doit choisir entre ou la garder pour faire plaisir à ses hommes parce que ses hommes sont contents et ils l'aiment bien, ou alors faire plaisir au député et la virer. Ça, c'est un truc qui arrivait couramment dans les armées de la Révolution française. Et il y a un témoignage qui existe d'une femme habillée en cavalier de l'armée des Pyrénées-Orientales qui s'appelle Thérèse Figuer, qui a laissé des mémoires. Et je trouvais que c'était bien de lui rendre hommage, ou en tout cas toutes ces personnes-là qui s'étaient travesties et qui avaient suivi les armées, parce qu'il n'y avait pas que des travestis, hein, il y avait beaucoup de cantinières, de blanchisseuses qui suivaient les armées. En fait, les soldats de la Révolution sont des citoyens. Des volontaires pour la plupart au début et donc ils viennent avec leurs femmes et leurs enfants, ce qui fait que les armées ressemblent à des grosses réunions de famille parfois.
Puis même t'as besoin toujours d'un truc au-delà de l'armée, enfin je veux dire, tu sais, t'as besoin de la cantine, t'as besoin de
absolument.
De des stocks,
ouais.
T'as besoin
ouais,
de trucs
ouais.
Quoi.
Elles sont primordiales, les cantinières, ouais, elles permettent d'améliorer les conditions logistiques des soldats que les administrations sont parfois pas capables de gérer.
Stan, du coup, toi, est-ce que tu connaissais un peu cette histoire, ce contexte ou pas du tout ?
Je le connaissais parce qu'il y a un jeu qui est souvent revenu dans les références de ce à quoi on pensait qui s'appelle With the Revolution, auquel j'avais joué ouais, avant. Donc je voyais l'univers déjà un peu sous cet angle-là. Le contexte de la guillotine qui est un peu à tout bout de champ, que je pense a été bien retranscrit dans le jeu avec les différentes fins. Même s'il y en a qui sont plus ridicules que d'autres, mais de manière générale, ça donne quand même cette idée de... Et la guillotine était... toujours un risque, surtout pour une personne qui a le projecteur sur elle. Ouais, sinon, en termes de design, avec les références, je pense que je me suis bien approprié la chose. On avait un choix pour la palette graphique pour bien faire ressortir les personnages. Surtout les rouges et les bleus, parce que bleu, blanc, rouge.
Ouais, c'est vrai que ça s'impose un petit peu, ouais.
Ouais, c'est un code couleur connu.
Plutôt, ouais.
Et moi, j'ai une question, par contre. Est-ce que vous comptez continuer le truc, le jeu? Est-ce que vous comptez, par exemple, genre, en faire une vraie expérience finale de jeu qui, peut-être pas se vendre, mais être considéré comme un jeu complet, on va dire?
Stan, t'en penses quoi, toi?
Moi, je trouve que oui. Genre, on avait vu quelques petites erreurs ici et là, mais normalement, ouais. Pierre a déjà retravaillé dessus. Mmh. Dans l'état actuel des choses, moi, je trouve ça déjà très bien. Genre, c'est clairement le jeu le plus poussé et fini que j'ai fait en Game Jam. Donc, très fier du projet et de l'équipe.
Ah non, moi j'ai trouvé ça super abouti déjà. Et puis oui, comme le modèle est déjà un peu connu, ça aide aussi.
Oui, c'est clair.
Et c'est cool. Mais ouais, c'est pour ça que je me dis, bah, peut-être qu'un jour ils vont le vendre, peut-être qu'ils vont faire plusieurs embranchements, peut-être qu'ils vont faire plusieurs personnages, je ne sais pas.
Ah bah moi je dirais pas non, clairement.
Ouais.
Et toi Valentin, est-ce que tu as des gens de ton entourage ou d'autres chercheurs et chercheuses qui ont joué au jeu? Est-ce que tu as eu des retours de gens qui ne sont pas du monde de la Game Jam?
Oui, tout à fait. Je l'ai fait jouer un petit peu à tous mes proches, tous mes amis. Ça les a beaucoup fait rigoler parce que comme je parle beaucoup de ma thèse autour de moi, forcément pour la faire exister, ils ont trouvé plein de références dont j'avais parlé auparavant ça leur a beaucoup plu en substance. Après, je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce qu'on peut faire en deux jours. Donc certains étaient très étonnés, très surpris que ça fonctionne carrément. Et d'autres qui étaient là, je m'attendais à un FPS, première personne.
Un FPS Révolution, ouais.
Ouais, en deux jours, ouais, tranquille.
Ouais, c'est ça.
Il n'y a pas Assassin's Creed, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ça aurait pu être une bonne idée.
Donc voilà.
Tu as parlé tout à l'heure d'événements,
oui,
que tu avais collés dans le
ouais,
jeu.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vraiment tu en as pris des vrais?
Ouais, bah déjà pour la femme travestie en soldat.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est un vrai. Donc, ensuite, bah, je sais pas tout en tête, mais il
voilà,
y en a plein hein, en réalité. Par exemple, un autre qui me vient en tête, à un moment, quand vous êtes au port.
Il m'énerve tous les passages au port, ça m'énerve.
Les notables.
Parce qu'à chaque fois, je sais jamais si je dois y aller ou pas.
Ah oui, c'est vrai.
Moi, je faisais 50-50.
Ah, mais à chaque fois, j'allais au port et je me faisais avoir. Ah, ça m'énervait beaucoup.
En fait, il y a une petite erreur au début, c'est qu'en fait, les passages d'un endroit à un autre vous rajoutent un jour de timer. Donc en fait, si vous les accumulez, vous gagnez du temps. Alors que ça, on aurait dû l'enlever en vrai.
Ah, mince.
Parce que ça vous fait gagner du temps.
Ouais. Gagner.
Et donc, à un moment, vous êtes au port et le notable vient vous voir et vous propose de faire du commerce avec une puissance extérieure pour améliorer les rendements en grains,
ouais, ouais,
les quantités de grains qui arrivent. Et ça, c'est un truc que j'ai emprunté à une armée qui est à côté, qui s'appelle l'armée d'Italie, et qui faisait du commerce avec la ville de Gênes, la République de Gênes, ouais, qui était une puissance neutre, et qui donc alimentait Nice en grains, pour faire plus de pain pour les gens qui, okay, étaient là-bas. Tout simplement parce que les populations des Pyrénées-Orientales ou même du comté de Nice étaient des populations qui, quand les armées révolutionnaires arrivaient, doublaient. Donc en fait, ouais, les régions n'étaient pas prêtes à supporter une augmentation de la population de cette ampleur-là. Et donc il fallait trouver des ressources ailleurs, à moins que tout le monde crève de faim ou qu'on choisisse entre l'armée et le peuple. Tension qu'on a essayé de représenter un petit peu. Est-ce qu'il faut nourrir l'armée? Est-ce qu'il faut nourrir le peuple? Est-ce qu'il faut fliquer le peuple? Enfin, toutes ces questions-là. Il y a eu plein d'autres éléments, la tension dans la ville de Perpignan elle-même entre modérés et radicaux, ça c'est pas un truc qui est propre à l'année 1793 qu'on traite là en question, parce que ça s'est déjà un petit peu calmé, les radicaux sont déjà bien en place, mais dans les deux années précédentes de la Révolution à Perpignan, ça s'est bien bataillé entre modérés, radicaux, et il y a eu des bastons de rue, il y a eu plein de trucs, mais comme dans beaucoup d'autres villes de France, ouais, ouais, et du Sud.
Eh ben, j'ai plus de questions.
Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance pour peut-être gagner
beaucoup.
Le prix,
merci
gagner le prix
vous.
Du public ou quoi. Et merci beaucoup. Nouveau jeu, je suis toujours avec Winston et Fonz. Ça va les garçons?
Ça va.
Ça va très bien.
Et donc, nous sommes toujours à la Game Jam de Blois et nous recevons les équipes, en tout cas deux membres de l'équipe du jeu Tumult. Est-ce que vous pouvez vous présenter, messieurs, dames?
Moi, c'est Karl Zimmer, je suis l'historien qui a participé donc pour la première fois à une Game Jam.
De mon côté, je suis Camille Moïse-Martin, game designer sur cette Game Jam, et c'est la deuxième fois que je participe à l'émission de Blois.
Oui, tu étais là l'année dernière, effectivement. Alors, Tumult. Alors déjà aussi peut-être, Karl, parle-moi de ta thèse et donc ensuite de me présenter le jeu Tumult. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu?
Donc moi je travaille en fait sur un micro-événement. Donc ça fait 4 ans que je suis sur cette thèse, j'ai pas encore tout à fait terminé, mais ça se déroule sur 3 jours. Donc le 14, 15 et 16 septembre 1839 au Mans. Au départ c'est une émeute frumentaire Donc, c'est-à-dire c'est des entraves qui sont faites par la foule face à une circulation de blé qui est plus importante et qui inquiète la population. Et très rapidement, des affrontements ont lieu avec les autorités, avec les forces de l'ordre. Des armuries sont pillées, des barricades sont montées, des prisonniers sont faits. Il y a donc des affrontements un petit peu plus violents. On a aussi un phénomène de ludisme, donc de bride machine contre des mécaniques. Donc voilà, l'idée c'est de faire un petit peu un carottage de la société au début du 19e siècle à partir de cet événement.
Comment est-ce que vous l'avez transposé ça en jeu vidéo ? Qu'est-ce qui se passe dans le jeu ? Qu'est-ce qu'on doit faire ?
Je crois que ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a deux formes d'action. Il y a le fait de s'affronter avec les forces de l'ordre, et donc il faut essayer d'échapper aux gendarmes qui sont présents sur la map. Et en même temps, il faut essayer d'attraper un certain nombre d'objets, notamment un tambour, notamment des sacs de grains et des armes, de manière justement à pouvoir faire ce qu'on appelle à ce moment-là l'économie morale, c'est-à-dire essayer d'avoir une autre conception de la propriété. Parce qu'en fait, les blés, c'est une question de subsistance. C'est-à-dire les gens, ils se nourrissent avec et donc ils considèrent que ça ne peut pas être un objet de propriété comme un autre qu'on peut commercer, qu'on peut diffuser, et sur lequel on peut spéculer. Et donc voilà, l'idée d'aller récupérer ces sacs de blé, je crois en tout cas dans le jeu, moi ce que je trouve intéressant d'aller les prendre, c'est de montrer justement cette conception de l'économie à ce moment-là.
Camille, raconte-nous dans le jeu comment ça se concrétise.
Le fait de ramasser des sacs de blé.
Non, mais même non. Comment est-ce qu'on joue et la oui. disposition du jeu
Alors, disons que nous, en fait, ce qui nous a intéressé, je pense que c'était surtout le fait de travailler avec la foule et le fait justement de créer en fait une sorte d'émulsion populaire. Et comment est-ce qu'on reproduit ça en termes de mécanique et en termes d'ambiance. Donc le fait, en fait, la chose sur laquelle on a majoritairement travaillé, qui nous a pris pas mal de temps, c'est simplement le fait de pouvoir rameuter des gens et ensuite du coup de gérer la partie affrontement avec du coup les forces de l'ordre. Et ensuite, dans un troisième temps, on a eu un peu cette problématique de dire bon, c'est quoi le but du joueur ? Comment est-ce qu'on peut transposer le fait qu'il doit créer et favoriser les meutes ? Et donc, c'est là qu'on a rebasculé avec les sacs de blé et avec le tambour en se disant en fait, il faut récupérer des objets qui sont qui font partie de la symbolique en fait, de ce qui s'est passé dans la réalité. Et à partir de là, justement, on a un peu fait de la tambouille, hein, concrètement. Mais une gentille tambouille.
Moi, c'est les graphismes qui m'ont un peu épaté.
Oui !
Parce que c'est.
De quoi ?
J'ai trouvé ça très joli.
Ah
voilà, et je m'étais dit, c'est quoi, vous avez piqué des assets ou vous avez fait ça vous-même ?
Les assets ont tous été créés par l'équipe.
Okay,
donc ils ont clairement géré graphiquement, clairement le travail qu'ils ont fait était dingue. Et justement, à la sortie du jeu le dimanche soir, je sais qu'on était un petit peu triste de ne pas avoir pu intégrer tout ce qu'il fallait du premier coup. Mais ça, je pense que je ne suis pas la seule, et on n'est pas la seule équipe à avoir fait ça. Mais non, là-dessus, ils ont tout fait eux-mêmes et c'est très bien.
Du coup, c'est quoi que vous n'avez pas pu mettre ?
Typiquement à la sortie du jeu.
Oui.
C'était plus des assets visuels typiquement en fait au tout départ tu pouvais simplement t'avais qu'un émeutier, un vieillard en fait que tu peux avoir avec toi et en fait on avait d'autres du coup animations et d'autres personnages qui sont un peu plus représentatifs aussi de la société en elle-même que juste un seul émeutier par exemple.
Oui, OK, d'accord.
Moi je suis fan de l'émeutière. C'est mon personnage préféré de tous les jeux de cette game jam. Comment elle court. J'adore l'animation de comment elle court comme ça.
Et d'ailleurs, c'était un peu une volonté aussi de mettre un personnage féminin, parce que dans les émeutes frumentaires, c'est vraiment quelque chose qui est très récurrent dans les archives, c'est la place des femmes dans ces histoires-là. Et donc, il y avait vraiment, ça a fait consensus assez rapidement, du fait de mettre un personnage féminin. Et pour revenir aussi sur la question du graphisme, moi, ce qui m'a épaté, pour reprendre ton expression, c'est que les artistes ont réussi à utiliser véritablement les archives que je leur ai proposées pour essayer de reconstituer vraiment extrêmement réellement la ville du Mans, parce qu'en fait ça se passe dans la ville du Mans et typiquement on a discuté sur la couleur des ardoises des maisons, sur la forme des pavés. Il y a une halle qui a été complètement reconstituée, aujourd'hui elle est détruite mais je leur ai montré quelques gravures, des dessins et un truc qui peut paraître anecdotique peut-être quand on y joue, mais par exemple il y a l'horloge qui est présente et vraiment au début du 19e siècle c'est l'apparition de cette horloge et elle est présente, il y a le palais de justice qui est aussi représenté et pareil. Alors lui, il est encore présent aujourd'hui dans la ville du Mans, sur la place de la République. Et vraiment, si vous mettez une photo à côté, c'est exactement le même bâtiment, quoi.
Ok, d'accord. Donc il y a vraiment eu un effort de reconstitution,
ouais,
entre guillemets.
Complet.
Et moi j'ai une petite question. Du coup, tu as dit que le personnage principal a été choisi, c'était à dessein parce que c'était des femmes, mais elles ont été vraiment dans l'activisme genre violent, genre.
Oui. Dans le cas des émeutes frumentaires, c'est classique dans ce qu'on appelle l'historiographie, ouais. C'est-à-dire cette place des femmes. Alors elle pose beaucoup de questions. Hein, est-ce qu'il y a un effet de loupe de la part des sources judiciaires? Pendant un moment, dans les années 60, on considérait que c'était peut-être aussi une stratégie émeutière, c'est-à-dire de mettre les femmes en avant pour que la répression soit moins violente. Donc voilà, il y a plein de questions autour de ça. Si je rentre un petit peu dans le détail, dans ce qui s'est passé au niveau du procès sur Le Mans, c'est qu'au final, il n'y a qu'une seule femme qui est inculpée, alors qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont inculpés, alors que tous les témoignages, tous les rapports de police, tous les rapports de gendarmerie, d'armée, tout le monde dit qu'il y a autant de femmes que d'hommes, qu'elles sont même très présentes pour aller justement interpeller les autorités. Alors ça, c'est une dimension qu'on n'a pas mis dans le jeu, mais il y a un enjeu politique, c'est que les autorités judiciaires ont la volonté de politiser l'émeute, c'est-à-dire elles veulent absolument dire qu'il y a des agitateurs républicains de l'opposition. Et donc, pour rendre sérieux l'émeute, pour pouvoir justifier justement cette politisation, ils écartent les femmes dans le procès. Parce que mettre des femmes, ça ne fait pas très sérieux.
Oui, bien sûr.
c'est marrant que ça ne change pas finalement. Le coup de « oui, c'est de l'agitation, ce n'est pas justifié, ils sont violents, ils sont bizarres, ils sont bêtes ». C'est bizarre, enfin, c'est rigolo.
Non, effectivement, bah, on en parlait juste avant, bah, je renvoie aussi vers l'épisode que j'avais fait d'un patient moderniste sur les révoltes des femmes dans les campagnes, notamment lyonnaises. Et oui, là, en fait, bon, y a totalement un lien avec ça, avec les révoltes frumentaires, avec les femmes qui s'organisent pour récupérer des denrées, tout ça. Donc, il y a un petit lien avec un épisode de patient moderniste aussi.
Ah oui, bien sûr. Pour rentrer un peu plus dans la jam, Karl, qu'est-ce que tu as fait après avoir donné toutes les informations? Est-ce que tu as mis les mains dedans? Est-ce que tu as écrit beaucoup? Enfin, qu'est-ce que tu as fait exactement? Est-ce que c'était juste du consulting? Ou est-ce que tu as aidé plus sur le jeu?
Déjà, moi, je suis complètement un néophyte dans le monde, ouais, du jeu vidéo et même dans le numérique. Hein. C'est un truc que j'ai l'impression de répéter tout le temps, mais le premier truc qu'on a fait, c'est qu'ils m'ont inscrit sur Discord et j'ai découvert ce truc-là. Donc c'est pour vous dire le niveau d'où je partais.
Ouais.
Donc ouais, c'était principalement du conseil.
Il y a un logiciel de discussion et une sorte de forum. Je voilà. Dis aussi pour les personnes qui nous écoutent qui ne connaîtraient pas, c'est en train de chat, un forum.
Et donc ouais, c'était principalement, je leur montrais des archives, ils me montraient leurs dessins. Par exemple, il y a un émeutier qui est un personnage blond, qui a un fusil, et donc Cortex qui a fait le dessin, le premier dessin, c'est un fusil qui, ouais, ressemble pas forcément à un fusil d'époque. Donc je lui ai montré une image d'un dessin, d'une représentation, et donc il a reproduit de manière à le rendre plus crédible. Donc c'était principalement ça, ce qui me faisait un peu culpabiliser le soir quand j'allais me coucher, parce que j'avais bien l'impression que derrière, les autres, ils continuaient de travailler. Et j'en profite, je ne sais pas si vous vouliez l'aborder, mais c'est aussi la question du paysage sonore.
Oui.
Où il y a eu un... Non, donc je n'en parle pas maintenant.
Non, vas-y, aborde. Non, vas-y.
Il y a eu un travail de fou aussi qui a été réalisé. C'est-à-dire que je lui ai sorti les archives judiciaires, justement, dans lesquelles il y a les dépositions de témoignages sur les cris qui sont entendus, qui ont été reproduits. Alors, je crois qu'ils ne sont pas tous hyper audibles ou ils ne sont pas tous mis. Mais en tout cas, normalement, chaque personnage avait une voix avec un cri à partir du moment où on s'approchait de lui pour l'ameuter. On a reproduit, il y a un petit son, alors je sais pas comment on appelle ça, le design sonore, la petite musique si vous voulez. Et pareil, au départ, dans la première proposition, il y avait du saxophone, mais sauf qu'en 1939, ça n'existe pas.
Non, c'est pas possible.
Donc voilà, c'était des petites choses comme ça, et donc il fallait chercher quel instrument, et il se trouve qu'on avait du tuba qui venait d'être inventé, donc ouais, ok, c'est bon, on peut mettre ce cuivre-là. C'était des petites choses comme ça.
Et comment vous êtes tombé, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont... Il y a beaucoup d'écrits cette année, ça blablate beaucoup. Vous êtes sur une sorte de runner un peu fou. Comment vous êtes arrivé sur ça, en fait?
Alors, déjà, on a Karl qui est arrivé en disant « Moi, je vois un petit jeu d'action, un truc assez simple. » Et il est vrai que, dans la vraie vie, je suis plutôt en narrative design, donc justement, ouais, écrire, je sais faire. Mais justement, le défi, c'était de faire quelque chose de simple, mais qui arrive à retransmettre, en fait, un peu l'émulsion qu'on avait. Moi, de mon point de vue, j'étais pas vraiment pas partie pour faire de l'écriture. Je voulais pas en faire. Enfin, idéalement,
ouais, c'est très
bien, ça. Ce qui est très bien, mais du coup, j'ai dû carburer sur d'autres compétences forcément j'avais moins. Et je me suis dit aussi que le piège de la game jam, c'est de devoir faire des trucs qui ont beaucoup de texte. Et des fois, ça peut être très vite rébarbatif. Et justement, en fait, c'était pas le projet, c'était pas le but, et du coup on s'est dit bon, on va faire simple, et on a essayé de faire simple. On a buté sur d'autres choses, mais...
Sur quoi, par exemple ?
Typiquement, ce qui nous a pris le plus de temps, c'était d'avoir la boucle de gameplay principale. Et notamment, en fait, d'intégrer des assets visuels. C'est pas moi qui aurais forcément les meilleurs termes, mais on est parti sur une vue isométrique.
Oui.
Donc, une vue du dessus.
Voilà, une vue du dessus, un peu en trois dimensions du dessus, mais c'est de la deux dimensions. Voilà.
Exactement. Et les assets qu'on avait, on avait un peu de 2D, mais pas tout à fait. Donc, ce qui fait que tout ça, ça a été un travail un petit peu de jongleur pour les développeurs. Donc en fait, il a fallu un peu imbriquer tout ça, et c'est ça qui a pris un peu plus, enfin le plus de temps dans un premier temps, ce qui fait qu'on avait quelque chose de jouable et qui ressemblait à ce qu'on voulait le dimanche vers midi. Et ensuite, il fallait tout intégrer, et du coup intégrer une boucle de gameplay, parce qu'en fait, même à ce moment-là, on n'avait pas encore la mécanique des objets, par exemple.
D'accord.
Donc ça, c'est un truc qu'on a ajouté sur le fil, parce qu'on se disait, bon, bah, c'est cool, mais en fait, on n'a pas de propos, en fait, si on ne boucle pas ça comme ça.
Donc vous en avez bavé pour rendre le jeu en temps
ben,
et en heure.
Disons que ça a été sportif, plus sportif que l'année dernière, par exemple, de mon côté. Mais, et côté développeur, je pense que ça a été sportif, parce qu'au départ, on était parti sur, bah, forcément, on a tous des ambitions le vendredi soir, et on était parti sur des vagues, en fait, de force de l'ordre, qui, du coup, seraient de plus en plus difficiles.
Ouais.
Avec justement des actions à effectuer en fonction du nombre de personnes que tu as. Et finalement, on a, on va dire, diminué la taille du projet et les ambitions au fur et à mesure qu'on avançait, parce que, bah, en fait, c'était pas possible dans le temps parti.
T'avais des inspirations en tête d'autres jeux ou pas du tout ?
Alors, je sais qu'on a pris plein. Et spontanément, je n'ai aucun des noms. J'en suis navrée.
Fonds, tu me diras si ça t'a fait penser à la même chose. Moi, ça m'a fait penser à un jeu qui n'est pas très connu. On en a parlé dans Backlog il y a quelques années, qui s'appelle Anarchute.
Ah, bah si, ça exactement partie, ouais. Celui-là.
Bah voilà.
Bah du coup, je vais demander à Karl, mais t'es joueur ou pas du coup ?
Pas du tout. Justement, dans les premières discussions, moi, j'étais un peu influencé de ce point de vue-là, mais je leur ai dit, moi, je veux un truc où je m'amuse. J'ai pas envie d'un jeu où on réfléchisse trop et que ce soit un peu prise de tête et que voilà, il faut que ce soit un truc très ludique et apporter quelque chose évidemment du contenu derrière, mais je joue pas, mais quand je joue j'aime bien que ce soit un truc rapide, efficace.
Ok, d'accord. Non, mais du coup ça fait un truc rafraîchissant.
Est-ce que tu as peut-être eu des frustrations par rapport à ça, justement de choses que tu aurais bien voulu faire et que tu n'as pas pu mettre ?
Frustration, non, parce qu'en vrai, je suis hyper admiratif. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et en tout cas, moi, je trouve une belle réussite. Moi, je trouve que c'est le meilleur jeu à en voter pour Tumult.
C'est pour Tumult.
C'est vrai que, en fait, par exemple, la question du maintien de l'ordre, elle se fait de manière en mosaïque au 19e siècle. Et l'idée des vagues était hyper intéressante. C'est-à-dire faire d'abord venir un commissaire de police qui essaye de discuter. Après, il y a la question des gendarmes qui arrêtent. Et puis, finalement, il y a l'armée qui intervient. Et elle a tendance plutôt à tirer en mode de...
comme GTA, quoi.
Mais ça se passait vraiment comme ça, genre les mecs ils vont prendre un commissaire, tiens Gérard va parler avec lui, et puis les types ont dit non mais nous on en a gros, on s'en fout, on va t'en mettre dans la gueule, et du coup ça
c'est
comme
exactement
ça.
Comme ça que ça s'est passé.
C'est-à-dire que moi,
tu aurais été un bon émeutier.
oui, je suis un très gros, bon émeutier de base déjà. Donc,
Pour résumer très rapidement, le 14 septembre, il y a des rassemblements et les commissaires, en fait, c'est des gens qui habitent dans les rues avec les gens. Ils sont là au quotidien et donc ils ont tendance à aller sur la place et à dire « qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous êtes là ? Vous inquiétez pas, c'est normal, les voitures, elles circulent. Rentrez chez vous, il n'y a rien à faire. » Et à partir du moment où il y a un incident et qu'il y a des échauffourées, là, il y a une sorte de clairon qui sonne dans la ville et il y a les gendarmes qui viennent et qui... arrête concrètement. Et donc là, c'est à partir du moment où il y a l'uniforme et qu'on commence à arrêter des gens, alors que la foule considère que c'est extrêmement juste de réclamer une répartition des subsistances, ils montent des barricades, ils vont chercher des armes, etc. Et donc là, on fait appel à l'armée, et elle, l'armée, c'est de la cavalerie, donc ils viennent sabre au clair et ils chargent.
Ah, vache. Il y a vraiment des choses qui changent pas. C'est incroyable.
C'est rigolo parce que juste avant on parlait de droit de 68, on était toujours dans les mêmes dans les mêmes violences policières. C'est bien, ça change pas, c'est parfait.
Moi je pense qu'on aurait pu laisser parler Karl encore une heure facile. Mais ouais.
Non, bon, merci beaucoup. Non, c'était super intéressant. Et ben
et merci à la Jam surtout.
Oh mais oui, merci à la Jam. Et puis je vous souhaite bonne chance pour les prix.
Suspense.
Votez. Et on se retrouve pour le dernier jeu. En tout cas, pour cet épisode de Passion Moderniste, et je pense peut-être le dernier jeu pour Backlog, on verra, toujours ce podcast crossover qu'on fait. Et on reçoit donc l'équipe du jeu Mission Nantes. Je suis toujours avec Baptiste et Fonz. Ça va les garçons ?
Ça va.
Toujours ?
Oui.
Et donc messieurs, autour de la table du jeu Mission Nantes, est-ce que vous pouvez vous présenter et dire déjà en quelques mots qu'est-ce que vous avez fait sur le jeu ?
Donc moi je suis Clovis Fourdrinier, j'ai été un des deux développeurs sur le jeu, notamment le développeur qui a continué après les deux jours de la jam pour continuer d'améliorer le jeu.
Moi je suis Simon Glorieux Calfa, j'ai fait la partie musicale et bruitage du jeu, et après la jam, en plus de retravailler légèrement les musiques, j'ai entièrement redoublé le jeu, voilà.
Ouais, bah du coup je m'appelle Martin Pansu, j'ai fait toute la partie visuelle, en fait on était deux. Et après moi j'ai continué le jeu après les deux semaines du coup, pendant deux semaines à améliorer tout ce qui manquait, etc. Voilà.
Donc vous êtes vraiment ceux qui ont poussé le projet le plus loin possible quoi en fait.
C'est ça.
Tous les trois. Oui.
Et donc là on n'a pas avec nous l'historien de la bande en fait qui s'appelle Florian Godelaine, donc ça va être un peu à vous d'être son porte-parole. Alors déjà, est-ce que vous êtes capable de dire sur quoi il travaille et quel est son sujet de thèse?
Son sujet de thèse, si je ne me trompe pas, je suis juste pas sûr des dates, mais c'est l'impact de l'homme sur la Loire du 17e au 18e,
je crois qu'il va jusqu'au 19e.
Wow, jusqu'au 19e.
Mais c'est fou parce que je vais bientôt sortir, ou alors je l'aurais déjà sorti, un épisode sur le Rhône à l'époque moderne. Donc non mais
Mazette.
Tu sais que ça n'a aucun rapport.
Bah non mais en fait c'était parce que
c'est un fleuve juste.
Non mais parce que la personne que j'ai interviewée ou que je vais interviewer selon quand ça sort a travaillé sur le commerce illicite sur le Rhône. Donc en fait on est vraiment sur un sujet assez proche.
On est sur un sujet assez proche. Oui.
Voilà.
Bah, ça tombe bien parce que notre jeu est justement à propos du commerce sur la Loire.
Bah vas-y, raconte-nous comment se passe le jeu donc Mission Nantes. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu?
Eh bien, dans ce jeu, en fait, on va incarner surtout un chaland, parce qu'on ne voit pas vraiment l'équipage, mais évidemment, on se doute qu'il y a un équipage, qui part d'Orléans et qui va descendre la Loire jusqu'à Nantes, et en traversant plusieurs ports, donc deux villes qui se trouvent réellement entre Orléans et Nantes. Et en s'arrêtant à chaque port, il va récupérer des marchandises ou vendre des marchandises qu'il a déjà, selon le port où il arrive.
On n'est pas sur un jeu de tourisme?
Non, pas du tout. C'est vraiment un jeu... de marchands, où ça va être de la gestion de marchandises et de gestion de son argent en fait.
Il faut gérer, il faut positionner correctement.
C'est un jeu de Tetris en fait.
Les différents éléments, ouais.
Le jeu est basé sur deux choses en particulier. Il y a un aspect visual novel parce qu'il y a beaucoup de textes,
oui,
d'exposition en fait, c'était le but. Pour chaque port, donc pour apporter de l'histoire en fait dans notre jeu. Voilà. Et en deuxième temps, il y a cet aspect un peu de Tetris où on a une cale et il faut réussir à placer et à bien organiser nos marchandises pour essayer d'en placer le plus possible, ce qui n'est pas toujours faisable.
Ce qui est très bien d'ailleurs, c'est que tu aies redoublé toutes les voies, parce qu'en fait, quand on arrive à chaque port, il y a un texte. Et le fait qu'il y ait l'appui d'une voix off, vu que les textes sont assez longs, ça désengorge le cerveau. C'est vraiment une très très bonne idée, ça.
Ça a été assez nécessaire. Déjà, c'est quelque chose que j'aime bien faire en soi. Bon, je suis pas du tout professionnel dans le doublage, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire, la lecture de textes ou un peu le théâtre, les trucs comme ça. Donc c'était quelque chose que j'avais envie d'apporter au jeu, que j'ai pas eu le temps de faire durant la jam. Du coup, au fur et à mesure, durant les deux semaines, j'ai eu le temps de le faire. Et ouais, j'ai cru comprendre pour tous les gens qui... n'apprécie pas particulièrement lire beaucoup dans les jeux vidéo, ce qui est aussi un peu mon cas, ça a pu apporter beaucoup de choses. Surtout, personnellement, je suis un grand fan de Saga MP3 ou de trucs comme ça. Donc,
ouais.
Ça a participé à l'expérience.
Moi, je trouve que ça allège le truc, justement, parce que le reproche, souvent, c'est ça, c'est des pavés de trucs. Puis là, du coup, ça allège le truc. Et je trouve ça très bien, voilà.
Peut-être, petit point à rajouter, tu as parlé de commerce illicite juste avant.
Oui.
Petit point sur le jeu... Disons que le commerce illicite est aussi un peu à prendre en compte dans le jeu.
Oui, il y a des moments où on peut nous proposer « Hey, tu veux pas faire tel truc illégal ?»
Alors on a gagné plus de thunes.
Là, on a une question en fait, parce qu'on en parlait dans la voiture avec Fonz. Fonz, vu que c'est un loufia, lui, il a décidé de faire le commerce illicite. Et moi, je me dis, j'ai pas le temps, non, on va y aller, on ne va pas le faire.
J'avais peur.
Et en fait, on se demandait, lui, vu qu'il avait chargé ses cales de choses illicites, il n'est pas tombé sur les douaniers. Et moi, j'avais rien, je suis tombé sur les douaniers. Est-ce qu'il y avait une fin où il peut se faire choper par la douane avec le truc illicite dedans?
Ça dépend de quelle version vous aviez du jeu, mais normalement sur la dernière version, les douaniers ne nous inquiètent que si justement on a le contenu illicite dans notre cale.
Ah.
Et du coup, oui, en fait, il y a un système de questions-réponses, et si on répond mal à la question, en effet, on est pénalisé pour...
Il va falloir encore qu'on y rejoue alors, parce qu'on n'a pas fait cette toute dernière version alors. Ouais.
On va pas spoiler la question. Attention, c'est extrêmement difficile.
Il faut
attention.
Être très attentif en effet.
Très, très, très. Ouais. Hein. Je sais pas si l'ironie se ressent dans ma voix.
Et là, du coup, dans ce qui est transporté aussi, comment s'est fait le choix des objets? Et est-ce que du coup, là, l'historien vous a donné des informations, de la documentation ?
Alors, justement,
Je sais qu'il nous avait donné plein de références, mais en tout cas, pour ma partie à moi aussi, qui ai fait les illustrations et tout, il nous a donné des références de trucs de l'époque. Et pareil pour les marchandises, du coup. Le truc qui était le plus vendu, je crois, c'est ça, à l'époque, qui passait le plus dans les traversées.
Il y a du tuffeau, il y a des planches de bois, il y a de l'ardoise, de la chaux et du vin.
Et chaque item, en fait, a une forme différente. Donc, c'est vraiment une sorte de Tetris dans lesquels qu'il faut mettre en place, quoi.
Oui. Un concept classique, mais bah, ça marche très bien. Merci Clovis pour l'idée.
Oui, vous avez des inspirations en termes de jeu ?
Direct, on commence la jam, on voit le thème. Ce qu'on se dit, c'est bon, jeu de gestion, ça c'est sûr, à peu près au vu du thème. On hésitait d'abord, est-ce qu'on commençait par un jeu de gestion centré sur les ports ou centré sur un batelier ? On s'est dit, bon, on va juste, on parle de FTL, bon, qui est un classique. Bon, au final, on n'en a rien gardé.
Alors, pour tes auditeurs, c'est Faster Than Light, c'est un jeu où tu es un vaisseau spatial qui doit essayer de s'enfuir parce qu'il a des aliens aux trousses. Et donc, en fait, tu as des petites cases sur le vaisseau et il faut les remplir ou pas les remplir. Enfin,
moi, j'adore le jeu de gestion. Donc,
et bah, c'est très bien.
Votre jeu m'a frustré. Parce que moi, je me disais, non, mais je veux réussir à tout mettre. Et vous m'avez dit que c'était pas possible.
Deux grosses suggestions de jeu en termes de gestion de matos à prendre, du coup, qui auraient pu être des inspirations, mais juste on n'y a pas pensé. Il y a Out There du studio Miklo et Dredge du je sais plus quel studio par contre, mais.
Et moi, on m'a aussi beaucoup parlé de Backpack Heroes après que j'ai fait ce jeu, mais je n'y ai jamais joué non plus, donc voilà.
La légère différence pour Backpack Heroes, c'est que là, il y a une dimension de combat au tour par tour, mais où on doit avoir. Un inventaire approprié.
Là, du coup, dans le jeu, donc, on charge des marchandises au fur et à mesure qu'on avance dans les ports. Des fois, on en vend, des fois, non, on doit encore les garder. On doit prendre des rations pour l'équipage, donc on doit un peu jouer à Tetris avec toutes ces marchandises au fur et à mesure. Et moi, je suis très frustrée. En plus, il faut, comme notre navire s'abîme au fur et à mesure, il faut penser à le réparer. Et moi, je suis très frustrée parce que j'ai perdu à la fin, parce que juste mon bateau s'est cassé. Et vraiment, je croyais avoir gagné et j'ai perdu. Et vraiment, derrière, je vous ai entendu rigoler quand j'ai joué à ça. Ah, mais vous avez vraiment ricané.
Oui, parce que plus le bateau est lourd, plus il s'abîme en fait entre les deux ports, c'est ça ?
C'est exactement ça, ouais.
Ah, moi, je suis rentré dans un truc, je crois.
Oui, moi aussi, je suis rentré dans un truc, je me suis pris un batelier ou je sais pas quoi.
Il y a un événement à un port précis où on perd plus de vie. Et d'ailleurs, on perd moins de vie si notre bateau est assez haut en fait en santé entre guillemets à ce moment-là. Donc c'est aussi pour récompenser les gens qui auraient pris soin de leur bateau jusqu'à présent.
Alors c'est un événement un petit peu. Disons que les maths derrière sont totalement cachées aux joueurs, bien évidemment. C'est juste bon. On s'est dit bon, si t'as très peu de vie, bon, on va quand même pas te tuer, ce serait un peu méchant. Si t'en as beaucoup, oh, allez, garde ta vie et en plus tu pourras faire le reste des ports sans même te réparer. Et juste le seul petit indice, on a juste dit soyez prudents au port précédent, histoire d'être un petit peu salaud quand même.
Ouais, et donc en fait, potentiellement, on pourrait ajouter plein d'événements différents qui pourraient de façon plus ou moins aléatoire arriver.
Bah, c'était l'idée de départ, c'est parce qu'en plus, notre historien nous parlait d'événements qui pouvaient arriver hein, à l'époque sur les ports. On avait plein d'événements qui ne sont pas dans le jeu, où par exemple, il y a des notions de grève, même des fois des bastons en fait, qui pouvaient arriver sur les ports. Voilà, c'est des choses qui arrivaient. Et bon, on n'a pas implémenté tant que ça non plus, parce que il n'y a pas beaucoup de sports non plus sur la traversée, c'est un jeu très court. Et voilà, c'est des idées peut-être qui pourraient à l'avenir servir pour peut-être de mises à jour futures.
Je vois que en fait, vous avez tous continué après la Game Jam, donc du coup, est-ce qu'il y a une volonté justement de faire autre chose encore avec le jeu ou pas du tout ?
On n'est pas à l'abri, on se cache pas de répondre à des opportunités, on va dire, entre guillemets. Si jamais on pensait
si Ubisoft te dit, ah non mais on veut acheter ce jeu, il est trop bien.
On n'en est pas là.
Avant
mais...
de mourir, Ubisoft, ils vont jeter le jeu.
Sur des choses un peu plus terre à terre, non, on pensait à des musées ou des choses comme
oui,
ça.
Ouais.
Intéressés sur l'histoire de la Loire ou de la région globalement.
Carrément, ouais.
Et on pense qu'on pourrait essayer de prospecter un peu, globalement.
Très bonne idée. Moi, j'avais une question au niveau des illustrations. Bah, comme on peut le voir, enfin, non, on est un podcast, donc on ne peut pas voir, mais il y a un mur avec des illustrations des différents jeux, et donc sur la tienne, c'est une des visions de port. Tu en as fait plusieurs, il y a une version avec des endroits un peu plus sauvages et tout. C'était quoi tes appuis ? Est-ce que l'historien t'a donné des gravures ou des choses pour savoir où t'allais pour représenter tout ça ?
Bah, il m'a donné pas mal de références, ouais, des gravures, des trucs de l'époque où on voit un peu les ports à quoi ils ressemblaient et tout ça. Du coup, je me suis bien basé là-dessus.
Ouais.
Et après, bah, quand j'avais fini, au final, j'ai montré à l'historien, il m'a donné plein de trucs à retoucher pour que ça colle bien à ce que c'était vraiment. Outre ça, je ne me suis pas vraiment basé sur d'autres trucs que ces références-là. J'ai fait un peu
ta sauce.
Ouais, c'est
sur
ça.
La carte aussi, C'est toi qui as dessiné la carte ?
Ouais, la carte, après, c'est pareil, je me suis basé sur des références de la BNF aussi. Je suis allé voir sur les sites de la BNF, ouais. Par exemple, pour trouver des cartes de l'époque, comment c'était les régions. Ouais. Ouais. J'ai essayé de trouver des petits monuments aussi pour les placer sur la carte, ouais. pour qui était à l'époque. On voit un peu. Bon, après, il n'y a pas les noms, il faut chercher un peu, mais voilà.
Et pour le dessin en lui-même de la Loire, parce que moi, dans mes anciennes études, j'avais travaillé sur les fleuves à une époque. Les fleuves ont beaucoup bougé. Est-ce que tu as pris le tracé actuel ou est-ce que c'était des tracés sur des cartes à l'ancienne ?
J'avoue que je suis allé sur Google Maps.
Yes.
Parce que déjà, après, c'est vrai qu'on avait 2 semaines, on n'a pas un temps infini. Puis moi, je suis en cours aussi à côté.
Ouais.
Et,
donc, ça n'a pas. Tous étudiants.
Ouais, voilà, ah, c'est ouais, ça. Ouais. Et déjà, pour trouver des cartes de l'époque avec un tracé qu'on arrive à lire, c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai un peu mixé les trucs et je me suis dit, bon, de toute façon, c'est un jeu de jam, donc on n'a pas non plus trop d'ambition historique.
T'avais une belle carte qui était, mais où la Loire était toute plate,
ouais
c'est
par
ça.
Exemple.
En fait, ouais, c'est à l'époque, ils avaient des... Bah, de toute façon, on n'a pas les trucs de satellite de maintenant, donc forcément, les tracés étaient un peu approximatif, quoi.
Et de toute façon, vu que tu avais les villes, en fait, au moins tu te dis d'une ville à l'autre.
Oui, ça, c'est forcément.
On
ici
passe pas par Brest, quoi. Donc déjà, ça va. On est à peu près sur un tracé similaire.
Oui, oui.
J'ai une question. L'historien n'est pas là. Est-ce que vous avez des réprimandes ? Est-ce que vous voulez vous lâcher ? Est-ce qu'il vous a embêté pendant la game ?
Outre moi qui il m'a demandé de changer plein de mini trucs sur les bateaux, mais ça me dérange pas. Mais moi j'ai trouvé que c'était sympa parce qu'il a pas voulu que ça soit un truc strictement fidèle aux gravures, par exemple. Il m'a laissé un peu faire mon style que je voulais. Puis l'autre graphiste aussi, c'était pareil. Du coup, c'était assez bien parce que on n'était pas vraiment limité.
Et globalement, Florent était présent quand il fallait. Ouais. Ça. Bon, sauf aujourd'hui, mais
c'est des choses qui arrivent.
Ouais, ouais. Ça arrive.
Mais voilà. Vous disiez que vous êtes en école, vous êtes en école de jeux vidéo tous les trois, c'est ça ?
Non ? Pas du tout.
Pas du tout.
Moi, dans mon cas, je suis en école d'ingénieur et du coup, en fait, j'ai une formation de développeur, mais pas du tout de jeux vidéo. Et d'ailleurs, ça fait depuis très récemment que je me suis intéressé au développement de jeux vidéo. C'est depuis cet été, en fait. Là, c'est ma deuxième jam auquel je participe, en fait. Mais voilà. Donc, en fait, j'ai un bon niveau de développeur, mais pas spécifiquement jeux vidéo.
Moi, de base, j'ai une formation, un master en biologie évolutive, donc rien à voir avec la musique. Mais par contre, j'en fais depuis super longtemps, du piano depuis super longtemps. J'ai commencé la composition pour le jeu vidéo, justement, avec Martin, qui est juste là. On a commencé direct en faisant des jams. Là, aujourd'hui, justement, j'hésite à plus me focaliser sur la musique, justement, spécifiquement pour le jeu vidéo.
Alors moi, j'ai un parcours scolaire un peu compliqué, mais c'est pareil, j'étais pendant une année dans une école de jeux vidéo, mais j'ai arrêté. C'est là que j'ai commencé un peu à apprendre les moteurs de jeu, parce que de base, en fait, j'ai fait plus de jam où j'ai développé que fait les visuels. Et sauf qu'après, je m'en suis un peu détourné, parce que j'ai fait une fac d'informatique, ça m'a vraiment pas plu. Du coup, maintenant, je suis dans une fac de graphisme, enfin non, pas dans une fac, mais enfin, je suis dans une école de graphisme. Et maintenant, je préfère les visuels, mais ouais, enfin, c'est pas lié aux jeux vidéo, quoi, mes formations.
Et du coup, sur le contexte historique, est-ce que ça vous a donné envie peut-être de vous y intéresser plus ? Est-ce que vous connaissiez ce contexte ou pas du tout ? Comment vous avez traité ça ?
Bah moi, à la base, je suis d'origine de Blois, en fait. Donc, pour le coup, j'ai quand même un rapport très fort avec la Loire parce que je l'ai toujours vue, en fait. Et j'aime beaucoup ce fleuve et tous les châteaux qui l'entourent, hein, globalement.
Surtout à Blois, on la voit bien. Moi, je trouve que vraiment, il y a des villes où on ne voit pas le fleuve.
Oui,
hein,
oui,
tu vois, tu vas à Valence, tu ne vois jamais le Rhône. Voilà, bref, on en parle dans le futur épisode.
C'était pour faire une blague, en plus, pour dire qu'à Dijon, on ne voyait pas bien la Loire.
Non, mais donc toi, oui, t'es plus proche du fleuve.
C'est ça. Donc en vrai, moi, ça va, je connais quand même bien la région et du coup, je m'y étais déjà intéressé il y a longtemps, en fait.
Perso, je suis de Lille. J'en avais initialement un peu rien à foutre de la Loire. J'avoue, j'en ai un peu rien à foutre de la Loire, mais au final, c'est en écoutant l'historien qu'il a réussi à rendre son sujet intéressant.
Ouais, pareil, moi je viens du sud, de Valence, du coup.
tu vois, écoute, j'ai parlé de Valence. À Valence, on oublie qu'il y a le Rhône qui passe.
Il y a la Drôme, je crois, et puis c'est tout.
Non, enfin, c'est le Rhône.
Pas un fleuve. Oui, le Rhône, mais il est loin, je crois.
Bah, en fait, ils ont mis l'autoroute entre Valence et... Non, mais...
Attends, Fanny, t'es en train de dire qu'ils ont déplacé le fleuve pour mettre l'autoroute ?
Je te jure
c'est
que
pas
oui.
L'inverse.
Je te jure que oui. Enfin, pas tout à fait, mais en tout cas, en fait, ça a coupé... En fait, ils ont mis l'autoroute entre le fleuve et la ville.
Ok. Moi, je vois un truc comme l'Atlantide, là. Écoute, je regarderai.
Tu écouteras l'épisode de Passion Moderniste où on parle du Rhône. Non, donc, c'est intéressant. Bah, ça vous a donné envie de vous intéresser ?
Moi, en vrai, j'aime bien l'histoire, mais j'avoue que si c'est pas amené d'une certaine façon, je vais pas arriver à m'y intéresser vraiment. Les pavés de texte, par exemple, je les lis pas forcément parce que c'est trop d'un coup d'informations et c'est pas assez ludique, entre guillemets.
Bah heureusement qu'il y a des jeux vidéo pour transmettre des choses sur l'histoire, alors.
On peut remercier d'ailleurs notre, les autres membres de l'équipe qui, même oui. s'ils ne sont pas là ici, nous ont bien aidés. Là, j'allais parler de Morgane qui s'est occupée du coup du texte.
La game designer, du coup.
Également, bien évidemment. Également Anne-Laure qui s'est occupée des graphismes. Et Théophile qui a été ton collègue au code. Et je vais faire un big up à Leila qui s'est occupée du trailer. Merci.
Qui ne faisait pas partie de l'équipe du coup, mais qui est une amie.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de trailers cette année. D'habitude, l'an dernier, il y avait pas de. C'était le truc en plus de cette année, c'est que tous les jeux avaient un petit trailer et c'était vachement bien foutu. C'était une très bonne idée de mettre les petits trailers comme ça.
Bon, nous, de base, c'était pas prévu. C'était vraiment, il était fait vraiment hier après-midi. J'ai envoyé un message.
La réaction, quoi. Ouais, attendez, les autres, ils en ont.
C'est exactement ça. Il y a eu un ou deux trailers qui étaient sortis. Mais d'ailleurs, des trailers qui étaient sortis après les 48 heures de la jam. Et en fait, ça a donné un élan à un peu toutes les équipes, je pense, qui ont se sont dit « Ah, on n'a pas ça, nous, faut qu'on le fasse, du coup. »
Non, bon effet d'entraînement.
Alors, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les trois, puis bonne chance peut-être pour avoir les prix.
Merci pour l'invitation.
Plaisir. Et c'est ainsi que se finit cet épisode. Alors, donc, vous l'avez compris, il y a plein de jeux que vous n'avez pas pu entendre, mais que vous pourrez entendre dans l'autre podcast Backlog, où il y aura un épisode beaucoup plus long avec tous les jeux présentés pendant la Game Jam. Et aussi, je peux vous le dire, je vous spoil un petit peu, désolé, je vous divulgage comme on dit aussi, le jeu qui a remporté le grand prix du jury, c'est Aux Armes Citoyens, donc le premier jeu dont nous avons parlé. Je rappelle que vous pouvez jouer encore à tous ces jeux. Je vous ai mis les liens vers tous les jeux sur mon site passionmediviste.fr. Il y a une rubrique Passion Moderniste où vous trouverez l'article de cet épisode. Je remercie encore les équipes de la Game Jam de nous avoir accueillis et tous les jammeurs et jammeuses d'avoir répondu à nos questions un petit peu facétieuses. Je remercie encore bien sûr Winston et Fonce du podcast Backlog avec qui j'ai animé cet épisode. Et aussi, si le rapport entre les jeux vidéo et l'histoire vous intéresse, je vous renvoie aussi vers la série Jeux vidéo et Moyen-Âge que je fais sur Passion Médiéviste, mon autre podcast. Merci encore d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion Moderniste. Salut !